transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en images sur la chaîne YouTube. On est ensemble jusqu'à 9h temps universel avec dans 30 minutes notre débat du jour. Vos réactions sur le Gabon, le pays attend la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril. Combien de candidats seront retenus? Pour l'instant, 4. 4 ont été validés par le ministère de l'Intérieur. Parmi eux, le général Oligui Nguema et l'ancien Premier ministre Alain Claude Billy Binzé. Parmi les 19 recalés, Jean-Rémy Yama, le syndicaliste, rappelez-vous, a dénoncé la semaine dernière une mascarade. Il a, comme 12 autres candidats, introduit un recours devant la Cour constitutionnelle qui doit rendre sa décision au plus tard, ce jeudi. On en parle donc ce matin, vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, les 20 premières minutes de cette émission sont consacré à vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez écouté le journal sur RFI, vous avez peut-être lu un article sur RFI.fr. Vous souhaitez un complément d'information? Eh bien, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous nous envoyez vos questions sur les réseaux sociaux et on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre en direct. Pour commencer la semaine, Bernardin est avec nous, il est à Bukavu. Bonjour Bernardin.
Bonjour Juan.
Dans la capitale de la province du Sud Kivu.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous avez des questions sur pays, la situation dans l'Est?
Oui, Juan, j'ai entendu sur RFI il y a quelques jours que les pays d'Afrique australe ont décidé de mettre fin au mandat de la SADC en RDC. Mmh. Alors une question, pourquoi prendre cette décision malgré la situation sécuritaire à l'Est du pays? Et d'ores et déjà, comment va s'organiser ce retrait progressif?
Oui, décision prise jeudi lors d'un sommet extraordinaire de la SADC. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Expliquez-nous, Paulina, pourquoi les chefs d'État ont entériné le retrait de cette force militaire déployée dans l'Est du pays, alors qu'il y a à peine 4 mois, son mandat avait été prolongé d'un an?
En fait, c'est principalement justement la situation sécuritaire dans cette région qui a conduit à cette décision. Cette force de la SADC, elle est principalement basée aux alentours de Goma, vers Sake, un peu à l'ouest de la capitale provinciale. Il y a eu des combats contre le M23 et l'armée rwandaise, mais la force n'a pas finalement empêché la chute de Goma et puis celle de Bukavu dans la foulée. Elle s'est donc retrouvée retranchée dans ses camps militaires, sans capacité d'action. Elle est encerclée par le Rwanda, explique une source proche de la présidence congolaise. Elle est cernée par les forces du M23, préfère nuancer un diplomate européen. Et en fait, devant cet état de fait, finalement, la SADC a préféré annoncer la fin du mandat et le retrait progressif.
Alors justement, sait-on d'ores et déjà comment va s'organiser ce retrait progressif?
Non, on ne sait pas encore. Tout l'enjeu, c'est d'éviter une humiliation, confie une source diplomatique. On se souvient effectivement de ces images du retrait des instructeurs d'Agemira, comme les qualifient les autorités congolaises, des mercenaires pour le M23 et le Rwanda, qui sont sortis sans leurs armes par la frontière rwandaise après la prise de Goma. Des images que les chefs d'État de la SADC ne veulent pas voir avec leurs troupes.
Bernardin, vous avez une troisième question? On vous écoute.
Oui, j'ai une autre question. Je voulais aussi savoir s'il y a d'autres options envisagées pour remplacer la SADC.
Pour remplacer donc cette force militaire, la SAMI DRC. Pauline Azidi à Kinshasa.
Oui, alors aujourd'hui même, il y a une réunion des chefs de la diplomatie, EAC, SADC, justement pour envisager un peu l'avenir et l'avenir militaire de la région. Plusieurs pistes sont envisagées. Un renforcement de la MONUSCO, la mission onusienne dans le pays. Elle est déjà déployée. Il n'est pas inconcevable d'inscrire de nouveau le Sud Kivu dans son mandat. Alors l'autre piste, c'est celle d'une force tampon. C'est quand même une hypothèse qui est peu probable parce que les deux blocs régionaux ont déjà déployé des forces dans la région suite à ce conflit. L'EAC, donc la région est-africaine à l'automne 2022, jusqu'à ce que ces militaires soient remplacés par ceux de la SADC en 2023, dont le mandat, on vient de le dire, vient de se terminer. Difficile d'imaginer donc que ces deux organisations régionales vont y retourner. En tous les cas, ce qui semble se dessiner, donc, c'est que ce soit la MONUSCO ou la nouvelle force tampon, ce n'est pas un mandat offensif qui devrait être donné. Ici, l'objectif, c'est de maintenir le cessez-le-feu décrété depuis le 16 mars, donc hier par l'Angola, le médiateur dans cette crise congolaise.
Ah oui, cessez-le-feu qui, je le précise, n'est pas respecté puisqu'hier, des combats violents ont été enregistrés non loin dans la localité de Mbé, à plus de 200 km au sud de Goma. Bernardin, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Je suis satisfait, Juan. Merci beaucoup. C'est tout comme question.
Ben, merci à vous, surtout de votre confiance. Bonne journée à Bukavu. À très vite, Paulina Zidi, correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Il est 9h16 à Paris, 8h16 en temps universel. Des questions maintenant sur la Guinée, 3 mois après le drame de Nzéré Koré. Bonjour Mamadi.
Oui, bonjour Juan. Bonjour à toute l'équipe de La Paix sur l'actualité.
Merci de nous écouter à Conakry, en Guinée.
Oui, je vous écoute depuis Dubreka, à quelques kilomètres de la capitale.
Très bien. Quelles sont vos questions?
La semaine dernière, une plainte avait été déposée par la famille des victimes lors de bousculade au stade Désiré Koré. Quels sont les sens que la justice guinéenne aille jusqu'au bout et juge aussi les responsables, y compris les ministres présents au stade?
Ouais, les faits, je le rappelle, remontent au 1er décembre. Le stade de la deuxième plus grande ville de Guinée accueillait ce jour-là un match de football organisé en soutien au général Doumbouya. La rencontre a dégénéré, s'en est suivi un mouvement de foule. Bilan officiel selon le gouvernement, 56 morts, au moins 140 selon les ONG locales. Bonjour Sidi Yansané.
Bonjour Juan, bonjour Mamadi.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. On se souvient qu'au lendemain du coup d'État, il y a maintenant 3 ans, le président Doumbouya avait promis que la justice serait la boussole de la transition. Mais depuis, on voit bien que les enquêtes s'ouvrent, mais elles ne se ferment jamais, que ce soit sur l'explosion du dépôt de carburant de Conakry ou encore les nombreux enlèvements d'opposants et de journalistes. Que savez-vous sur la plainte déposée concernant les événements de Nzéré Koré?
Alors Juan et puis Mamadi, on va d'abord rappeler que cette plainte fait suite à la publication du rapport d'enquête du collectif d'ONG de Nzéré Koré, qui avait commencé ses propres investigations le soir même de la tragédie. Et ce rapport, il pointe une volonté des autorités de dissimuler la vérité sur les véritables circonstances du drame. D'abord parce que le rapport accable l'État guinéen à tous les niveaux, du président de la délégation spéciale de Nzéré Koré au secrétariat général de la présidence de la République, en passant par les ministres, les préfets, les forces de l'ordre, tous dont la seule mission affichée était de mobiliser le plus possible pour montrer que le général Doumbouya est aimé dans la région, mais sans jamais tenir compte de la sécurité, disent les ONG. Rapport accablant ensuite parce qu'ils constatent une opacité totale dans les enquêtes menées par l'appareil judiciaire et par le gouvernement qui, à date, Mamadi, n'ont jamais communiqué sur ces événements. Mais surtout, les ONG accusent, là je les cite, des autorités morales, religieuses et administratives d'avoir encouragé des familles à ne pas se faire enregistrer comme victimes ni même à communiquer sur la tragédie et, je les cite encore, et plutôt de s'en remettre à Dieu. Et puis c'est vrai, Mamadi, et puis Juan aussi, que RFI a contacté le procureur de la cour d'appel de Cancan, le ministre de la Justice et même celui des Sports, et personne n'a répondu à nos questions.
En tout cas, il y a une semaine, 98 familles de victimes ont décidé de porter plainte.
Oui, sur la base d'une quinzaine d'accusations graves telles que meurtre, homicide involontaire, mise en danger d'autrui et puis aussi recel de cadavres. Le détail de la plainte n'a pas été rendu public, mais on sait déjà qu'elle vise les organisateurs du match et puis surtout les hiérarchies policières, militaires, politiques de Nzéré Koré, ainsi que le ministre de l'Agriculture Félix Lama et celui des sports, Kamou Bogola Abba, tous deux présents au stade lors de la bousculade. Le soir même qui a suivi le dépôt de cette plainte, le président de la délégation spéciale est limogé pour faute lourde, le préfet et le gouverneur sont mutés, mais même si les autorités ne font pas lien avec la tragédie pour justifier leur départ, les avocats des victimes y voient une sanction suite à la plainte.
Si je comprends bien, Sidi Yansané, vous nous apprenez là ce matin que cette plainte n'a pas connu de suite.
C'est ça, c'est qu'en fait les avocats des victimes décrivent à RFI une situation un peu incongrue, Juan, car d'après la défense, le procureur de Nzéré Koré finalement n'a ni accepté ni rejeté la plainte. Un cas juridique que l'on appelle, d'après les avocats des ONG, plutôt les avocats des victimes, qu'on appelle le silence du parquet, et ils vont donc directement saisir le juge d'instruction, et les avocats se disent prêts à aller à l'international si jamais rien ne bouge.
À suivre donc, et si vous souhaitez d'ailleurs réagir à cette actualité, n'hésitez n'hésitez pas, profitez-en. Le vendredi, c'est la libre antenne et vous commentez l'actualité de votre choix. Mamadi, a-t-on répondu à votre question? Êtes-vous satisfait?
Vraiment, je suis très satisfait. Merci beaucoup à Sidi et à toute l'équipe. Bonne journée à vous.
Et bonne journée donc à Doubreka.
Merci.
Bonne journée, Mamadi, de Conakry. Les explications de Sidi Yansané sont évidemment à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio en haut et sur la chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Vous nous suivez en ce moment sur YouTube. Tiens, je dis bonjour à Abou qui nous écoute à Bamako. Amadou, lui, nous dit bonjour RFI depuis Abidjan. Ibrahim nous salue depuis Massakori au Tchad. Merci à tous de vos encouragements et de votre fidélité. 8h21 en temps universel. D'autres questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan Gomez.
À Dakar, au Sénégal.
Oui, bonjour, ça va Juan Gomez?
Bon, ça va très bien, merci à vous. Vous avez des questions concernant l'Arménie et l'Azerbaïdjan après avoir écouté RFI.
Oui, après 30 ans de conflit, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont entendus sur un accord de paix. Sur cela, j'ai deux questions.
Allez-y.
Comment les deux parties sont-ils enfin parvenues à s'entendre? Quel avenir pour les frontières, notamment autour du Haut-Karabakh et les 100 000 Arméniens déplacés de cette région?
Allez, bonne question que vous posez, Ousmane. Effectivement, plus de trois décennies de conflits et de tensions marquées par deux guerres. L'une au début des années 90, à la chute de l'URSS, et l'autre en 2020. Bonjour Taline Papazian.
Bonjour.
Merci de prendre quelques instants pour répondre à Ousmane. Vous êtes politologue, maîtresse de conférences à Sciences Po. Il a fallu, Taline Papazian, au moins 5 années de négociations pour aboutir à ce texte approuvé jeudi par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Texte qui nous est présenté comme un accord de paix. Comment les deux pays se sont-ils enfin entendus ?
D'abord, merci à notre auditeur pour son intérêt et pour les questions qu'il a posées. Et en effet, on comprend qu'il se les pose. Il y a eu plusieurs étapes hein, dans ces, non pas 5 années, je dirais, mais plutôt 3 années.
D'accord.
En 2022, ça a commencé avec une médiation via l'Union européenne, de laquelle l'Azerbaïdjan s'est retiré et les deux pays ont ensuite continué sous un format bilatéral. Il y a eu un premier accord en 2024 pour commencer à délimiter la frontière. Bon, ça avance de manière modeste sur quelques kilomètres. Mais en 2024, il y a eu des avancées à ce niveau-là. Et évidemment, on a vu Yerevan mettre en priorité absolue ces dernières années de pouvoir réussir à signer un accord de paix pour stabiliser la région et pour, je dirais, sauver les meubles. C'est la priorité pour l'Arménie.
Taline Papazian, quand vous parlez de frontières, vous parlez de régions, vous évoquez évidemment le Haut-Karabakh les deux guerres qui ont déchiré ces deux pays portaient justement sur le contrôle de cette région. Qu'a-t-elle de particulier cette région? Est-ce que vous pouvez nous donner quand même des éléments pour que ceux qui ne suivent pas cette actualité au quotidien puissent comprendre de quoi nous sommes en train de parler?
Oui, pardonnez-moi, en effet, j'aurais dû préciser, quand je vous parlais de frontières tout à l'heure, je vous parlais de frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et je ne parlais en effet pas de la région du Haut-Karabakh. La région du Haut-Karabakh a été l'objet d'un conflit parce qu'il y avait une forte minorité arménienne dans cette région, qui était majoritaire il y a encore un an et demi de ça, mais qui depuis a été expulsée donc, de la région en septembre 2023. Cette région, ceci étant, fait partie de l'Azerbaïdjan, et l'Arménie n'a jamais, si vous voulez, prétendu vouloir enlever ou annexer cette région. Les discussions pendant 25 ans de conflit ou 30 ans de conflit étaient de réussir à trouver un statut pour cette région. Ceci a échoué puisque Bakou a choisi la solution de force en 2020, que grâce à la solution militaire, la région a été complètement reprise sous contrôle de Bakou. Et je dirais que pour le Haut-Karabakh, territorialement, le sort en est absolument scellé. Maintenant, la question, c'est celle du droit au retour des Arméniens du Haut-Karabakh, mais on sait que ce droit est imprescriptible. Néanmoins, dans la pratique aujourd'hui, il n'y a guère de perspective pour le faire valoir.
On parle là de 100 000 personnes. 100 000
Arméniens.
Pardon ?
150 000.
150 000. Bon, ce sont des chiffres effectivement qui circulent. Le chiffre le plus communément cité ici et là, mais je parle sur votre contrôle, c'est de 100 000 personnes. Vous me parlez de 150 000 personnes. Donc 150 000 Arméniens qui ont fui le Haut-Karabakh après la dernière guerre. Il n'y a aucun espoir pour qu'ils reviennent. Ils retournent dans cette région, oui. Si je comprends bien.
Bah, je vous parle de 150 000 parce qu'en fait, l'exode s'est fait en deux fois. Il y a eu une première étape de 50 000 après la guerre de 2020. Il y a eu une seconde étape de 100 000 en 2023. Mmh. Donc, d'où le chiffre de 100 000 que vous avez en tête.
Ouais, Ousmane
nous, il n'y a pas de perspective pratique aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas de perspective concrète aujourd'hui.
Ousmane parlait d'accord de paix. La paix est à portée de main ou il y a encore deux, trois détails à régler avant que cet accord, ce texte soit signé?
Normalement, l'accord est à portée de main, mais tout va dépendre de la volonté de Bakou à véritablement poser sa signature au bas de cet accord. Il s'agit d'un accord cadre, hein, donc c'est un accord qui pose de grands principes entre les pays. Ce n'est pas un accord exhaustif qui vient régler l'intégralité des problèmes. Il sera néanmoins extrêmement important s'il va jusqu'à l'étape de la signature. Et nous ne pouvons que le souhaiter, hein, aussi bien pour les sociétés d'Azerbaïdjan que d'Arménie.
D'accord. Vous êtes toujours avec nous, Taline Papazian ?
Bien sûr.
Ah d'accord, j'ai cru qu'il y avait une coupure, comme votre phrase se terminait en l'air, j'ai cru que la liaison téléphonique avait été coupée. Ousmane, à Dakar, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Merci beaucoup, Juan Gomez.
Merci infiniment à Taline Papazian, à qui je vais demander en deux mots, parce que c'est un sujet qu'on a rarement l'occasion d'évoquer dans Appel sur l'actualité, donc autant donner le maximum d'informations pour que les auditeurs qui écoutent en direct, qui nous suivent sur YouTube, puissent bien comprendre. C'est, l'accord prévoit, est-ce qu'on peut donner les trois ou quatre principaux points de cet accord de paix ? Taline Papazian.
Est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends.
D'accord. Le point le plus important, c'est la reconnaissance réciproque de l'intégrité territoriale des deux États. Donc ça, c'est un principe intangible auquel Yerevan tient beaucoup parce que justement, son intégrité territoriale, elle est mise à mal depuis 2-3 ans. Les forces militaires de l'Azerbaïdjan occupent des morceaux du territoire de la République d'Arménie. Donc ce principe est important. Enfin, il est important de graver ce principe, je dirais, et d'obtenir la signature du président Aliyev sous ce principe. Elle vaudra ce qu'elle vaudra, mais elle sera là. Et les autres points qui étaient encore en discussion ces dernières semaines, c'était un point sur la présence de forces de pays tiers
à la frontière.
Voilà. Et on sait qu'en fait, là, ce qui est visé par Bakou, c'est la force de monitoring de l'Union européenne, dont je précise qu'elle n'est pas une force armée, hein, elle est une force civile d'observation du cessez-le-feu. Mais Bakou ne souhaite pas que cette force demeure pour pouvoir observer. Et l'autre point qui était en discussion et sur lequel, là aussi, Yerevan a fait une concession importante pour parvenir à stabiliser la situation et à signer un accord de paix, c'est de retirer, donc des deux côtés, les deux parties retireraient les plaintes déposées auprès de la Cour européenne ou de la Cour de justice. J'allais dire en miroir. Chacun retirera ses dossiers.
Voilà, des concessions de part et d'autre. Merci infiniment, Taline Papazian, d'avoir pris plus de temps que prévu pour répondre à Ousmane, à qui je souhaite une belle journée à Dakar. Taline Papazian, politologue, maîtresse de conférences à Sciences Po. On a pris beaucoup de temps sur ce dossier, sur ce conflit Arménie-Azerbaïdjan, avec évidemment la perspective de cet accord de paix. Du coup, je m'excuse auprès de Christian. Vous êtes avec nous, Christian ? Bonjour.
Oui, je suis toujours avec vous, Anne. Bonjour.
Bonjour, désolé, on vous a fait patienter. Je voulais vous prendre en direct, ne serait-ce que pour m'excuser, puisque vous êtes avec nous au standard depuis le début de l'émission. Il nous reste à peine une minute et ce serait dommage de ne pas prendre le temps pour répondre à votre question qui est pertinente, puisqu'il s'agit de la République démocratique du Congo et de cette union sacrée autour de Félix Tshisekedi, coalition qui lui a permis de remporter sa deuxième élection présidentielle. On voit bien qu'il y a une restructuration au sein de cette union sacrée. Vos questions, elles seront toujours pertinentes demain, si votre agenda vous le permet. Et on sera un plaisir de vous rappeler pour que vous puissiez les poser en direct. C'est possible, Christian ?
Oui, c'est possible.
Bon, merci infiniment de votre compréhension. On est comme ça, en direct, sur RFI. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis, notamment sur la chaîne YouTube. J'en profite d'ailleurs pour saluer Patrick, qui nous écoute en ce moment et qui nous suit donc sur YouTube à Kinshasa. Fried nous dit bonjour de Kai en Haïti. Et Amadou, lui, nous salue depuis la Guinée-Bissau. Restez avec nous. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour débattre tous ensemble de la présidentielle du 12 avril en Guinée. Qui seront les candidats retenus ? Quelle sera la liste définitive ? On en saura plus d'ici à jeudi, mais on en parle déjà